Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox, aujourd'hui proposé par Radio Grenouille et enregistré lors des rencontres de l'Orme 2.15, rencontres du numérique éducatif et culturel qui se sont déroulées à Marseille les 20 et 21 mai. Dans cet épisode, nous nous poserons cette question: les jeux vidéo peuvent-ils avoir un rôle éducatif? Bonne écoute.
Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis, les jeux vidéo. 3 millions de mordus, uniquement en France, des ventes qui ont progressé de plus de 300% l'an dernier. Le succès commercial est exceptionnel, mais en même temps, revers de la médaille, on assiste à quelques perturbations dans la vie des enfants. Certains accros passent jusqu'à 8 heures par jour devant leur écran. Ils en oublient de manger, délaissent le travail à l'école, bref, le phénomène commence à poser problème. Florence Mavic et Daniel Lefebvre ont enquêté dans ce monde où rêve et fantasme se conjuguent avec haute technologie. Voici les mordus des jeux vidéo.
Quand on commence à jouer, quand on commence à voir l'écran, l'image qui commence à dessiner, le petit vaisseau ou le personnage qui apparaît, alors tout de suite on se sent dans un autre monde. Enfin, pour moi, je me sens dans un autre monde. J'ai l'impression de me croire dans le jeu avec le personnage et puis des fois je vois pas le temps passer, alors je suis perdu. Mais moi, c'est l'irréalisme dans le jeu que j'aime.
Retrouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Pourquoi l'ordinateur?
C'est plus vivant.
N'ayez pas peur, c'était en 92, il y a presque 25 ans, un extrait d'Envoyé spécial, les mordus du jeu vidéo, 3 millions de mordus, 8 heures par jour, les enfants délaissent le travail à l'école. Voilà ce qu'on pouvait entendre à l'avènement, à la découverte en France du phénomène jeu vidéo. Aujourd'hui, les Français jouent. 58,3% des Français jouent aux jeux vidéo. Et même si sur l'ensemble de ces joueurs, les adultes représentent beaucoup plus de joueurs que les enfants, la tranche des 10-14 ans est celle qui est la plus élevée, avec 89,1% dans cette tranche d'âge de joueurs, et celle des 6 à 10 ans avec 77,4%. 6 à 14 ans, c'est une période de la vie que l'on passe beaucoup à l'école, puis au collège, puis au lycée. Une période que l'on passe à apprendre, une période que l'on peut aussi passer à jouer avec l'introduction des jeux vidéo dans l'enseignement et plus particulièrement des serious games. Nous reviendrons sur ce sujet dans l'émission. Aujourd'hui, nous nous demanderons si les jeux vidéo peuvent avoir un rôle éducatif. Pour en parler, aux rencontres de l'Orme, vous êtes sur le 88.8 en direct. J'ai autour de cette table trois personnes. Anne Vix, bonjour.
Bonjour.
Anne Vix, vous êtes professeure, documentaliste de l'Académie d'Aix-Marseille et vous avez été chargée depuis 2007, chargée de mission pour les ressources numériques à la délégation académique au numérique.
Éducatif.
Et vous concevez aussi des parcours performance et vous avez mené une expérimentation sur l'introduction des serious games dans l'enseignement.
C'est ça, oui.
À côté de vous, nous avons Leslie Siboni.
Bonjour.
Bonjour. Vous travaillez pour Tralalaire. Vous êtes responsable éditorial et pédagogique. Tralalaire, qui est une maison d'édition.
Une boîte de production multimédia pédagogique.
Voilà, et qui conçoit et produit donc des serious games.
Tout à fait.
Et dernière invitée, à côté de moi, Isabelle Harvert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, critique et commissaire d'exposition indépendante.
Ouais, c'est ça.
Et vous, depuis un certain moment, vous travaillez sur les jeux vidéo. C'est votre matière pour, entre autres choses, la création de Machinima.
Voilà, je suis spécialisée dans la relation art et jeux vidéo.
On reviendra sur la définition des Machinima.
Bien sûr.
Anne-Vix, je me tourne vers vous pour commencer autour de l'étude que vous avez menée. Vous avez donc, depuis 2007, je le rappelle, mené une enquête, une expérimentation dans différents établissements.
Oui, c'est ça, oui.
Sur l'introduction des Serious Games, qui a commencé en septembre 2010, qui a duré 2 ans jusqu'en juin 2012. Vous avez coordonné une expérimentation. Comment vous avez procédé ?
Alors, on s'est adressé aux établissements en se basant sur le volontariat des enseignants. C'était une toute première expérimentation qu'on a voulu lancer dans l'académie. On s'est intéressé aux jeux sérieux depuis la parution de la thèse de Julian Alvarez à ce sujet. Et donc, on avait trouvé que c'était une ressource très intéressante. Et donc, dans un premier temps, comme on avait constaté qu'il y avait peu de retours d'usage, d'utilisation de serious game ou jeux sérieux en français dans les établissements, on a voulu donc lancer une expérimentation. Donc, on est parti sur la base du volontariat. On a proposé aux enseignants des jeux qui avaient été sélectionnés par des interlocuteurs académiques, c'est-à-dire des relais chez les enseignants, d'enseignants qui ont des pratiques du numérique. Et donc, on a lancé cette expérimentation sur 2 ans. Qu'on a regardé de près ensuite au travers d'une évaluation qui a donné la parole aux enseignants et aussi aux élèves.
Alors, cette expérimentation, vous avez eu des retours d'expérience, comme on dit. Quels sont les retours que vous avez eus ?
Alors, on a pu regarder du côté des élèves une plus grande implication, que ce soit en termes de motivation, d'engagement dans l'activité, et du point de vue des enseignants sur les apports des jeux sérieux pour les apprentissages, puisque c'est là la grande question, en fait. Un niveau de réflexion plus approfondi, une mémorisation facilitée et aussi une coopération entre les élèves qui est vraiment intéressante aujourd'hui puisque c'est quelque chose qui est regardé par l'enquête PISA, notamment à la capacité de coopérer. Donc des points très positifs. Et puis aussi du côté des enseignants, ce qu'on a pu observer, c'est ça qui nous a mis aussi la puce à l'oreille pour continuer de proposer un dispositif dont je parlais tout à l'heure, je pense. Un renouvellement d'une certaine manière de la pratique enseignante qui se positionne. Alors l'enseignant qui se positionne toujours comme référent du savoir, clairement, mais surtout comme oui. accompagnateur.
C'est-à-dire que l'enseignant ne peut pas non plus disparaître totalement, il a quand même un rôle, il doit être présent.
Et oui, et en fait son rôle il est fondamental, parce que c'est lui qui permet de relier l'expérience dans le jeu de l'élève aux notions du savoir. Parce que l'expérience dans le jeu, elle est intéressante parce que l'élève est actif dans un monde simulé, et donc il est agissant et c'est ça qui est intéressant pour eux d'ailleurs. Seulement le vocabulaire utilisé peut ne pas être adéquat par rapport au savoir à enseigner qui reste le cœur bien sûr du métier de l'enseignant. Et c'est l'enseignant qui fait le lien entre l'expérience du jeu et les notions que l'élève doit apprendre.
Est-ce que le jeu, en comparaison avec toute la gamme d'outils qu'un enseignant habituellement, que ça soit les œuvres littéraires, les œuvres musicales parfois, les œuvres cinématographiques, et puis toute la palette qu'on connaît d'outils qu'il a à sa disposition, est-ce que le jeu apporte des spécificités que n'ont pas les autres outils ? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value du jeu vidéo ?
Alors la plus grande spécificité, c'est l'agir dans le faire semblant, comme dirait Gilles Brougère, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus. L'élève expérimente directement quelque chose. D'ailleurs, quand il en parle, ensuite, il dit « Oui, mais quand il m'est arrivé ça ?» Comme si c'était vrai, en fait. C'est très intéressant à regarder. Donc, l'élève agit. Il n'est pas en train d'écouter un discours sur la fonction marketing. Il est en train de gérer une entreprise, le jeu Blossom Flowers, qui est assez connu pour ça. Et donc, il est confronté à une certaine réalité. C'est ça qui est très intéressant. Mais il y a aussi d'autres choses vraiment importantes. Par exemple, le statut de l'erreur, le feedback immédiat. Il n'a pas sa note 3 semaines après. Il a le rendu de son action immédiatement. Et il peut recommencer par faire son parcours, s'améliorer. Et du point de vue de la confiance en soi, c'est très intéressant aussi.
C'est une expérimentation que vous avez menée. On imagine aujourd'hui que même s'il y a 25 ans, comme on l'entend dans le reportage, c'était il y a 25 ans, il y avait déjà une inquiétude sur les jeux vidéo, sur ce que ça pouvait provoquer. Il y a 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Et en même temps, en tout cas dans l'enseignement, on n'a pas l'impression que les jeux vidéo ont pris une place dominante sur comme outil pédagogique. Est-ce que les équipes pédagogiques ont un frein ? Encore, est-ce que les académies ont encore un frein sur l'utilisation des jeux vidéo ? Et que pensent les équipes pédagogiques de cet outil ?
Alors, y a une certaine défiance vis-à-vis du jeu de toute façon. Alors,
pas le jeu en général, pas
le
que
le jeu en général. Alors pas en maternelle, hein, au contraire. Mais plus on monte dans les études, hein, plus il y a une défiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus d'enseignants qui sont intéressés par le jeu. On le voit dans le cadre de notre dispositif, puisqu'on propose des actions de formation qui ont beaucoup de succès. On propose un formulaire, les gens s'inscrivent et il y a toujours beaucoup plus de gens que ce qu'on peut en prendre. Donc il y a une certaine curiosité, une appétence pour cette ressource-là. Donc les choses évoluent quand même. Hein. Il se passe quelque chose, hein, de toute façon en ce moment, et peut-être de plus en plus.
Est-ce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, dans quelques années, les élèves auront des devoirs à faire sur jeux vidéo, ils rentreront à la maison, ils auront le droit de faire une petite partie de PlayStation ou de Nintendo pour faire un devoir et valider leur...
Mais oui, on peut l'imaginer, mais alors ça renvoie d'ailleurs à l'apprentissage inversé, enfin le... Mm-hmm. Voilà, mais ça veut dire aussi que le jeu est capable de renvoyer des éléments d'évaluation pour que l'enseignant sache ce que l'élève a fait dans le jeu, bien sûr. Donc ça pose aussi cette contrainte-là.
On va parler de la construction des jeux vidéo avec Leslie Siboni après une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille 88.8. On vient d'entendre la musique que tout le monde aura reconnue de Super Mario, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Londres. Et oui, parce que les grands orchestres maintenant se mettent à jouer entre autres la musique de film, mais aussi la musique de jeux vidéo. Ça se fait de plus en plus. On va toujours parler de jeux vidéo aujourd'hui. Comment les jeux vidéo peuvent-ils avoir un rôle sur l'enseignement, sur un rôle éducatif? Leslie Siboni.
Oui.
Vous travaillez, vous, pour Tralalaire. Vous êtes responsable éditorial et pédagogique. C'est une structure qui existe depuis 2000.
Tout à fait.
Quelle est la variété de vos actions? Vous ne faites pas que des jeux.
On ne fait pas que des jeux. On travaille sur des ressources multimédia adressées aux médiateurs éducatifs au sens large, aux enseignants, aux animateurs d'ateliers périscolaires, mais aussi, on pense toujours l'adulte derrière, le parent, l'enseignant. Et toutes nos ressources sont pensées avec ce double objectif. Donc ça va du site internet de sensibilisation à du service game, à de l'appli, à du livre numérique, etc., etc.
Il y a des relations entre les différents médiums. Est-ce que vous faites ce qu'on appelle maintenant du transmédia?
Transmédia, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Le but, c'est de penser vraiment justement comment enrichir une ressource et comment un enfant peut être accroché par différents supports. Il y en a qui vont être plus sensibles à du visuel, il y en a qui vont être plus sensibles à de l'audio, il y en a qui vont être plus sensibles à l'action. Donc on essaye aussi de penser les différentes formes d'intelligence et d'apprentissage qui peuvent être mises en place.
Alors justement, à ce sujet, moi je me souviens de, je ne sais plus dans quel, où est-ce que j'avais vu ça, mais en tout cas, ça me fait penser que quand on joue à un jeu, des fois, quand on sent monter comme ça la fibre éducative, on essaye de nous apprendre quelque chose, ça nous effraie un peu des fois dans le jeu. Non, j'exagère, mais
pas dans nos jeux.
Qu'est-ce qui fait, on en parlait tout à l'heure avec Anvix, qu'est-ce qui fait un bon serious game? Comment on arrive à mêler jeu et sérieux, puisque c'est une oxymore presque, hein, comment on arrive à mêler ces deux termes? Quel est le bon dosage? Comment on fabrique un bon serious game?
Alors, je pense que le plus important, c'est d'avoir une méthodologie assez ancrée. Et je pense que Tralalaire, pour le coup, on l'a expérimenté de maintes reprises. Et c'est la même qu'on met en place sur du serious game ou sur un site internet ou peu importe le support. C'est d'avoir d'un côté un comité scientifique avec des experts, à la fois de la thématique qu'on veut traiter, mais aussi des experts terrain. Et d'avoir surtout des gens autour d'une table qui ne s'entendent pas. C'est vraiment le but pour qu'on puisse justement mettre en place et vraiment débattre.
La création dans la discussion.
Exactement. Discuter vraiment des messages clés et de la manière dont on va les adresser aux enfants, mais aussi aux enseignants. Vraiment de penser ça, la place de l'enseignant, dès la conception du jeu.
Parce que le serious game ne s'adresse pas que aux enfants.
Non, il s'adresse pour nous toujours cette double cible, les enfants, mais aussi le médiateur éducatif, l'enseignant, qui va s'en emparer, qui va mettre en place une séance autour de ce jeu. Donc pensez le format, pensez le contexte dans lequel il va être utilisé, pensez aussi la tranche d'âge, on ne va pas s'adresser à des collégiens comme on va s'adresser à des lycéens. Et puis, donc ça c'est la première étape, et on va dire que le deuxième pôle pour créer un serious game, c'est d'avoir une équipe de créatifs avec à la fois des spécialistes de l'ergonomie, des dessinateurs, des réalisateurs, des scénaristes, etc. Et le travail de Tralalaire, c'est de faire la passerelle entre ces deux mondes. Un monde peut-être plus institutionnel et plus sérieux, justement, qui va être le comité scientifique, et le monde plus du jeu, justement, avec les créatifs.
Serious Game, on entend souvent rôle éducatif, rôle de prévention aussi, mais ça se décline sur plusieurs objectifs.
Alors aujourd'hui, nous, on a 4 Serious Games. On a 2025 Ex Machina, qui est vraiment sur les usages responsables d'Internet. C'est le premier Serious Game qu'on a mis en place. Puis est venu après 2025 Energy, qui traite du développement durable et qui est une énorme machine, mm-hmm. puisqu'il est traduit en 9 langues aujourd'hui et vraiment diffusé au niveau européen, avec pour tous ces jeux un taux de connexion qui est énorme. On a mis en place l'isoloir, qui est aussi autour de la citoyenneté numérique, et notre tout dernier serious game sur la violence scolaire, qui s'appelle Stop la violence, et qui a reçu le prix du jury du Web Festival il y a quelques mois. Le but en fait de ces serious games, c'est de donner un support aussi aux enseignants pour traiter des thématiques qui sont pas forcément évidentes, notamment comme la violence scolaire, où les enseignants sont souvent démunis pour voilà, et c'est du coup en amont d'une situation, en début d'année, ou même face à un cas concret qui s'est passé dans l'établissement, les enseignants ont un support pour pouvoir entamer une discussion. Le but de ces serious games, juste un dernier mot, c'est de vraiment c'est vraiment de déclencher un débat. C'est pas d'avoir tout le contenu forcément, et c'est là où la place, comme vous le disiez juste avant, la place de l'enseignant est centrale pour justement animer la discussion et déclencher les réflexions.
C'est un marché qui se développe. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans quelques années il y ait autant de développeurs de serious games, de jeux éducatifs, qu'il y a des maisons d'édition consacrées à l'enseignement?
Je ne suis pas voyante, mais je l'espère en tout cas, parce que je pense...
Non, mais vous connaissez peut-être le marché, vous voyez comment ça se passe, peut-être comment ça se développe.
Mais
je
pense que, comme vous le disiez aussi précédemment, c'est vraiment on doit aussi éduquer l'éducation nationale à ce type d'outils, accompagner les gens pour que les enseignants n'aient plus peur de s'emparer d'outils qui sont pas dits classiques en tout cas, mais comme demain la classe inversée, comme demain la gestion de classe avec justement l'envoi de ressources en amont et en aval d'une séance. Tout ça, c'est des défis que l'éducation nationale doit relever pour demain, qui se développent déjà dans d'autres pays européens.
Lesquels ? Est-ce que la France est déjà sur l'Europe, mais après dans le monde, quels sont les pays qui sont les mieux
L'Angleterre est quand même... Mais en fait, ça dépend... Enfin, il y a tellement de facteurs qui permettent de développer ça, et de facteurs politiques aussi pour la mise en place d'outils, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut aussi des outils. Et inversement, il ne suffit pas d'avoir des outils, des tablettes, de distribuer des tablettes, des ordinateurs, si derrière, il n'y a pas les ressources nécessaires.
Et une volonté aussi politique et...
Tout à fait.
On va continuer notre conversation et après on fera un tour de table collectif où on abordera des questions plus transversales. On va discuter tout de suite avec Isabelle Harvert après encore une petite pause musicale. We'll be right back. La mauvaise réputation de Georges Brassens, réinterprétée par Sid Abitbol, ce qu'on appelle communément la 8-bit, la chip music. Mauvaise réputation, eh bien oui, mauvaise réputation, souvent les jeux vidéo ont mauvaise réputation. On est avec Isabelle Harvert, vous êtes auteur, critique et commissaire d'exposition indépendante.
Oui.
Vous travaillez la relation entre l'art, les jeux vidéo, Internet, les nouvelles formes d'images liées au réseau et à l'imagerie numérique.
C'est tout ça.
Et vous travaillez depuis, sur la question depuis 1993.
Voilà, à peu près.
À peu près. Donc ouais, on n'est pas loin du reportage qu'on entendait au tout début. Parce que c'est vrai que même si on a l'impression que les jeux vidéo, c'est toujours très récent, en fait, ça commence
quand
à dater.
Dans les années 60.
Dans les années 60. Mmh. Et c'est une longue histoire, finalement.
C'est une longue histoire.
Et malgré tout, on voit comment il faut conquérir une certaine réputation, une certaine visibilité. Et dans le monde de l'art, qui est quand même une zone d'avant-garde, est-ce que le monde de l'art est un milieu qui accueille plus facilement les questions de jeux vidéo ?
Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Il y a encore eu très très peu d'expositions de ce qu'on appellera du coup le game art, qui est vraiment l'art dédié à la question du jeu. Il y a eu une exposition à la Gaieté Lyrique. Moi, j'en ai fait quelques-unes un peu à Aix-en-Provence, là, dans le cadre du Festival Gamers, où je fais des expositions de machinima, on y reviendra. J'en ai fait une dans un centre d'art contemporain à Cergy qui s'appelle Games Reflections. Et après, ça a été plutôt à l'étranger. Parce que justement, alors là, ça dépasse la question du jeu, c'est plutôt le numérique. En France et dans le monde de l'art contemporain, on a encore du mal avec l'immatériel, on a encore du mal avec tout ce qui est interactif. Donc du coup, c'est peu présenté et dans les musées et dans les galeries. Voilà.
Les machinima, ce sont des vidéos, pas que des vidéos, mais réalisées en détournant le moteur graphique du jeu.
Oui.
Je le donne une définition.
Pas mal du tout.
Pour réaliser ces films, ça nécessite de jouer à des jeux.
Ça nécessite de jouer à des jeux, oui. Ouais.
Donc vous jouez.
Donc je joue.
Vous jouez beaucoup.
Alors je joue, pour parler vraiment franchement, je joue vraiment dans un cadre professionnel. Au départ, moi, je suis pas une grosse joueuse.
Non, vous jouez pour le travail.
C'est ça, ça je bosse.
Vous menez des ateliers donc et aujourd'hui, enfin l'enseignement artistique est présent dès le collège, même avant. Enfin, mon enfant est à la maternelle, il fait des ateliers artistiques. Dans le secondaire, quand on parle d'art, bon, c'est vrai qu'on c'est déjà une filière un peu à part. Les cours de dessin, l'enseignement théâtre, art plastique, musicologie sont des filières qui sont à côté quand même. Alors, sauf pour ceux qui font une option lourde, mais c'est quand même pas la majorité des étudiants, des élèves. Est-ce que le jeu vidéo en art, le game art, peut trouver une place dans l'enseignement selon vous ?
Oui, bien sûr, mais alors on va aller même au-delà du collège et du lycée. Déjà dans les écoles d'art, c'est compliqué.
Ah oui.
Hein ? Ouais. Voilà. Donc par exemple, là j'ai fait un atelier machinima aux Beaux-Arts à Paris. Ça fait 5 ans que le responsable du département numérique essayait de faire rentrer le jeu vidéo aux Beaux-Arts, pour vous donner une idée. À part l'école d'Ardex, qui vraiment travaille autour de la question, il y a très peu d'écoles en France, un petit peu à Poitiers, qui intègrent le jeu vidéo dans la pratique. Donc du coup, oui, moi je pense que bien sûr ça a sa place. Alors j'interviens au collège, toujours pour des ateliers, mais pas forcément avec le prof d'art plastique. Ça va beaucoup être, je crois, ce qu'on appelle les ATI. Bon.
Les ATI, ce sont les
ateliers de... Oui. Les ATI, non, je ne connais pas ça.
C'est pas ça, c'est ceux qui s'occupent plutôt de l'aspect technique.
Oui, c'est ça, les assistants voilà. Du conseil général qui sont dans les collèges. Voilà. Pour.
Et ça va être eux, nos référents pour les ateliers. Donc pour l'instant, et tout reste à faire, et ça c'est formidable. Moi je pense que ça a vraiment sa place, parce que c'est vraiment aborder le jeu vidéo d'une manière créative. Mmh. Hein, c'est, souvent je présente les machinima comme le fait de revenir à l'écriture... et de scénarios et de dialogues, mais vraiment revenir à l'écriture par le biais des jeux vidéo. Et donc, c'est vraiment une activité créative qui utilise le jeu vidéo. Donc, je pense que ça aurait tout à fait sa place. Maintenant, dans les ateliers que je fais avec des étudiants en art, je fais en sorte qu'ils créent des installations vidéo à partir des machinima. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire, mais on faut défricher, là.
Moi, je pose la question à tout le monde, hein, maintenant. bon, dans l'enseignement, on considère l'œuvre artistique en général, puisque c'est quand même un outil sur lequel on fonde certains cours, la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, il est acquis d'étudier une œuvre littéraire, un film, un jeu ? Est-ce qu'il est acquis d'étudier un jeu ?
D'étudier un jeu ou d'utiliser un jeu pour étudier ?
Étudier un jeu.
Pourquoi pas ? Enfin, c'est pas acquis. Non, c'est pas acquis. Je pense pas du tout. Hein. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, là, ça me paraît très, très intéressant d'imaginer qu'il y ait d'autres manières de produire pour les élèves. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ils font quoi, les élèves, quand on leur demande un exposé ? Ils font soit un texte, soit un diaporama, maintenant. Hein. Bon, alors, le diaporama... Et là, moi je travaille dans un CDI, je suis documentaliste, et on incite les élèves à utiliser d'autres façons de rendre compte du savoir qu'ils doivent faire partager hein, aux autres élèves via un exposé, par exemple. Et je pense que ça peut redonner du peps, justement, à ce genre de travaux. Ouais. Ça peut vraiment donner beaucoup d'intérêt. Et ça n'enlève rien au contenu. Au contraire, arriver à mettre en scène un contenu, c'est très, très intéressant.
Mais c'est amusant ce que vous dites, parce que justement, là, le week-end dernier, j'étais à Sorgues, à la médiathèque... pour un atelier machinima avec, entre autres, des lycéens. Et je leur disais, les prochains exposés, pourquoi vous ne les feriez pas en machinima ? J'ai travaillé, alors à une époque, j'étais prof de marketing, de web marketing, et je faisais en sorte que j'avais un cours sur les advert games et la gamification, et je leur demandais de me présenter leur stratégie de web marketing sous forme de machinima pour me montrer comment ils intégraient de la gamification. Voilà. Parce que c'est à un moment donné, vraiment mettre en image des idées.
On peut penser à un CV aussi, faire son CV de cette manière-là.
Est-ce que selon vous, je connais la réponse, mais les jeux vidéo souffrent encore de leur mauvaise réputation. Comment on peut l'expliquer ? Ce sont les médias qui jouent un rôle dominant là-dessus. Est-ce que c'est une histoire de génération, finalement ? Est-ce qu'il faut plus de 25 ans pour que ça se construise dans la tête des gens ? Qu'on peut utiliser les jeux vidéo à la fois sur leur gameplay, les outils qu'ils mettent en place et qui peuvent en ça être éducatifs, leur détournement, mais l'œuvre en tant que telle qui peut être étudiée comme une œuvre littéraire.
Moi, je ne suis pas sûre que les jeux vidéo souffrent de mauvaise réputation auprès des enseignants. Je pense plus que c'est le fait que ça soit un outil multimédia numérique nouveau auquel qu'il faut s'approprier, plus que parce qu'on dit que les jeux vidéo... voilà.
Dans tous les cas, hein, utiliser une ressource numérique reste encore
compliqué,
pas simple. Ouais. Voilà. Mais je pense quand même que le fait que ce soit un jeu, et peut-être même un jeu vidéo qui n'a pas été pensé pour l'enseignement, alors là c'est encore plus compliqué, à la fois par des représentations peut-être inexactes, hein, des a priori, voilà, on n'a qu'à dire ça, mais aussi parce que c'est compliqué de toute façon. Parce que faire entrer l'utilisation d'un jeu sérieux en cours, d'ailleurs c'est la première des problématiques auxquelles est confronté l'enseignant, c'est comment j'intègre ce jeu dans mon cours, combien de temps il dure. C'est pour ça que tout à l'heure quand vous disiez que vous pensiez à ça dans votre conception, c'est vraiment très important. Parce qu'il faut que ça rentre dans l'heure de cours. L'organisation scolaire est très prégnante encore. Il n'est pas vraiment adapté à ce genre de pratique. Hein. Un jeu, il faut que ça rentre dans l'heure de cours. Si j'arrête, est-ce que je peux revenir ? Je peux revenir là où j'en étais. Mais si pour revenir, il faut que je donne l'adresse mail de tous mes élèves. Voilà, ça pose plein de questions de base, mais très importantes. Et après, il y a les connexions entre le jeu et les points du savoir à enseigner. Si l'enseignant ne retrouve pas dans le jeu des points du savoir à enseigner, le jeu ne va pas l'intéresser. Parce que l'enseignant, il a quoi ? Il a un programme. Voilà, il y a un programme qu'il doit respecter. Donc plus le jeu est éloigné de ça, plus ça peut être compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je dis que ça, c'est compliqué.
C'est pour ça que toutes ces questions-là, quand on parlait de comment on fabrique le jeu, tout ça, c'est à faire, bien sûr, en amont, dès la conception, d'intégrer tous ces liens avec les programmes.
Absolument.
Merci à toutes les trois, Anne Vix, Leslie Siboni et Isabelle Harvert, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez avoir plus d'informations sur Tralalaire sur www.tralalaire.com. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site d'Isabelle Harvert, www.isabellharvert.com. Et puis, pour consulter les études, vous pouvez aller aussi sur eduscol.education.fr. Là, vous pourrez avoir les détails de l'étude menée par Anne Vix, mais également on vous renvoie vers plein de références, notamment celle de Julian Alvarez et Damien Djaouti sur l'introduction au Serious Game. Ouais. Merci, bonne continuation. On vous laisse sur Radio Grenouille. À bientôt.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.